vous avez vu ou pas? Non? Bon. Ah, non. Alors, on va faire peut-être. Je vais vous demander de vous lever, comme ça on va faire une petite tour, et puis je vais vous montrer ce qu'il y a là-dessous. Le collectif d'abord est d'éthique de Montréal, donc on est réserve des hommes. On est plusieurs associations à y participer. Il y a Ustaro avec Gonzalo Echevarria, vous connaissez peut-être. Il y a Chouac avec Pompon Caso qui fait des feux d'artifice. Il y a Abotia qui organise le festival chez vous, et Michel Tchoufard qui est le président. Pierre Wiesberg qui est Koum, voilà, on se retrouve tous les mois autour de la table, et puis quand un a un projet, a envie de faire quelque chose, il le dit aux autres, et puis ça envoie les autres, on y va. Donc là, c'est ce qui s'est passé, c'est moi qui avais envie de faire ça. Je l'ai proposé aux autres, et puis ils se sont ajoutés. Alors, toutes les photos qu'il y a là, c'est une, elle ne fait pas partie du conseil d'administration, c'est Eliane Gapa qui les a faites, elle suit beaucoup nos activités. Et c'est une. Elle est enseignante, elle est photographe amateur, mais elle photographie les mascarades depuis un bon moment maintenant, et les carnavals aussi du Pays Basque, et puis même un petit peu ailleurs. Et donc là, ce sont les photos de la mascarade de l'an dernier, qui avait été montée par les anciens élèves de l'Ecastola de Soule, les Ecastola de Soule, parce que, exceptionnellement, aucun village n'avait organisé la mascarade cette année-là. Donc voilà les photos d'Eliane, et on va se diriger un petit peu vers le cortège pour que je vous explique qui sont les personnages. Alors ce cortège là, c'est une amie de ma fille qui l'a fait, voilà, elle reste toujours dans le collectif. Elle est couturière, elle est comédienne aussi, elle s'appelle Hélène Jacquelot. Et elle a notamment monté avec ma fille, je ne sais pas si vous avez vu, Boule de suif et pied de biche, deux pièces de théâtre. Voilà, donc elle a fait tout le cortège de la mascarade. Alors, on a l'habitude de dire que devant, ce sont les beaux, les locaux, les rouges, qu'on appelle les rouges, qui sont ensuite séparés par le groupe de musiciens, et derrière, ce sont les noirs, les laids, les étrangers, voilà, dans lesquels on va retrouver les bohémiens. Donc, d'abord, les danseurs sous le thème qui ouvrent la marche. Ici, le Tchereo, le Gatusain, la cantinière, le Samansain et l'Enchegnaï. Ensuite, derrière, le couple de mariés, ou le couple Jean et Arnélion, ils appellent, hein, le monsieur et la dame. Et juste derrière, la boye et la boycha. Qui se retrouve alors Jaume Andeya se retrouve dans beaucoup de mascarades ailleurs aussi, le Samalsaïd aussi, le Gatusaïd aussi dans notre mascarade, et la Boye et la Boyesha on ne les trouve pas tellement dans notre carnaval. Par contre, on retrouve très souvent le vieux et la vieille, et qui ressembleraient certainement, qui seraient certainement transformés en la Boye et la Boyesha chez nous. Ensuite, derrière les fucuyers, ce sont souvent des enfants qui jouent ce rôle-là. On dit qu'avant, ils faisaient une danse d'épée et tout ça. Maintenant, ils ne font plus grand-chose. Ensuite, derrière, on a les maréchaux ferrants qui vont ferrer le cheval. Et ensuite, les deux musiciens, le joueur de flûte. Et vous pouvez tourner en courant si vous voulez les voir. Le joueur de flûte et le joueur de tambour. Ensuite, derrière encore, nous avons les chouroches qui vont aiguiser l'épée de Jaume. Ce sont ceux-ci. Ensuite, qui chantent, qui annoncent à chaque fois ce qui va se passer. Encore derrière, les cachetous qui vont châtrer le cheval. Et puis, derrière eux, les bohémiens. Les bohémiens qui... Donc toute cette partie-là, ce sont les plus sauvages de la troupe, hein, les bohémiens, les caltés. Alors les bohémiens, eux, ils ont fait le tour du monde et ils vont raconter qu'est-ce qu'ils ont vu en faisant leur tour du monde. Et les caltés vont aussi faire un discours. Et eux, par contre, vont plutôt critiquer la société souletine, alors le village qui les reçoit, ils critiquent. Et ils critiquent aussi les villages alentour, enfin voilà. Ils font un discours. Quand on dit que c'est la troupe des sauvages, ils sont vraiment dans la mascarade, représentés comme des sauvages. Ils se sautent dessus, ils sont ivrognes, ils sont... Voilà. Et derrière, alors dans cette troupe de Kauté, il y a Pichou, qui est... Où il est? Il est là, Pichou. Voilà. Pichu, qui est un peu le clown de la mascarade, qui est un personnage quand même assez nouveau. C'était pas forcément lui qui faisait le clown avant, mais bon, je vous expliquerai un petit peu ça après. Donc il fait partie de la troupe des Caotés, et ici on a toujours des couples de patrons et ouvriers, et quand l'ouvrier ne travaille pas bien, il appelle Pichu pour l'aider, et Pichu arrive pour l'aider, mais Pichu n'est pas un bon ouvrier non plus. Donc à chaque fois il se fait mettre dehors à coups de pied, et le patron rappelle son ouvrier, et Pichu à la fin de la mascarade meurt, d'où le médecin ici derrière qui va venir le ressusciter, et voilà. Alors la mascarade, ça se déroule sur toute une journée, c'est un village qui l'organise en principe, sauf pour cette mascarade-là, donc c'était les jeunes de l'Ikastola. Un village qui l'organise, qui fait la première représentation dans son village, la dernière aussi, et entre-temps, eh bien, ils parcourent les villages alentours, ils sont invités dans les autres villages pour donner la mascarade. Cette année, je crois qu'ils en jouent 13 comme ça, 13 dimanches à la suite, deux dans leur village et les autres tours. Donc le matin, cette troupe-là arrive dans le village qui la reçoit, et on appelle cette partie-là de la mascarade les barricades. Donc en principe, c'est la troupe qui arrive dans le village et qui doit passer une barricade ou plusieurs avant d'arriver sur la place du village. Avant, dans des textes, on trouve que les barricades étaient beaucoup plus violentes que maintenant. C'était vraiment une troupe de l'extérieur qui arrivait dans le village et qui devait gagner le terrain. Elle pouvait même être arrêtée quand elle partait à pied, je ne sais pas moi, d'Ordiarp à Aviodos. Elle pouvait être arrêtée sur tous les villages où elle passait, et il fallait passer la barricade du village où la mascarade passait avant de pouvoir continuer son chemin. Maintenant c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus courtois, les barricades se forment, les danseurs, la troupe est accueillie par les danseurs du village, les danseurs passent une barricade virtuelle et une grande table est installée, alors soit devant chez les notables du village, le maire, ça peut être un chanteur, celui qui fait danser la troupe du village, enfin quelqu'un d'important comme ça, et il y a une table pleine de victuailles, et la troupe donc fait sa barricade, un petit discours à la personne qui reçoit, et on boit, on mange, et puis ils passent à la table d'à côté, ils se promènent dans le village. Il y a des villages où ils font jusqu'à 15 barricades, donc quand ils arrivent au bout des barricades déjà, c'est pas mal. Alors en principe, les danseurs se tiennent bien parce qu'ils savent qu'ils doivent bien danser l'après-midi. Jean-Marie, ce sont toujours... voilà, tout le groupe des locaux est censé bien se tenir. Ceux-là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein, c'est-à-dire qu'ils boivent, ils mangent, et quelquefois, ils arrivent au spectacle l'après-midi. C'est assez... Voilà, ils sont fatigués, très fatigués. Mais ils ont le droit, puisque ce sont les étrangers, les ivrognes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà. Le spectacle l'après-midi se fait sur la place du village, après que les acteurs aient été, parce qu'ils ont mangé pendant toute la matinée dans le barricade, mais après ils sont invités en principe dans les maisons à manger, et ils reviennent sur la place du village. Là il va y avoir des danses faites par les Aïtindai, là. Bralia contre Apache, Godale Danza, La Gabota. Et ensuite, il va y avoir les scénettes sur la place. Alors, le Samalsain va être ferré et châtré. Qu'est-ce qu'il y a? L'épée de Jarna qui est aiguisée. Les Bouham et les Caotés, donc, ils font leur discours et leur jeu. Pichu, qui aide les ouvriers, qui meurt, qui ressuscite. Et ensuite, il y a le chant final et les sauts. Le chant final, je crois que c'est aussi quelque chose d'assez récent. Il n'y avait pas de chant avant, mais maintenant la troupe chante à la fin. Voilà, alors c'est une fête que moi j'aime bien. Aller voir une fois la mascarade, ça marque quand même la fin de l'hiver, le début du printemps, enfin, tout ce que peut marquer le carnaval. Et c'est vrai que c'est une fête qui a des sons, qui a des couleurs, qui a... Bon, c'est quelque chose de bien. Quelquefois, ça déborde, on est mal à l'aise. Enfin, moi, je suis mal à l'aise. Et de plus en plus, justement, depuis que j'ai fait ces études sur les bohémiens, parce qu'avant, j'allais voir les mascarades sans me soucier de qui étaient ces personnages-là. Et puis maintenant que je le sais un peu plus, eh bien, ça me gêne un peu, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. Alors, pourquoi mascarade et bohémien pour cette exposition ? Parce qu'il y a ces bohémiens dans les mascarades, mais que les bohémiens, ce ne sont pas juste des gens qui ont un mode de vie, mais que c'est bien un peuple, hein, ils font partie du peuple tzigane, et que les bohémiens se sont sédentarisés au Pays Basque, au moins à partir du XVIIe siècle. C'est là qu'on a les premières traces de bohémiens sédentarisés. Ils sont arrivés avant. Alors, tout ça, mascarade et bohémien, ces deux parties-là, c'est expliqué sur les ordinateurs qu'il y a ici au milieu. Mais je vais vous en faire un petit résumé. Donc, il y a une partie sur les bohémiens, leur histoire en Europe et leur histoire au Pays Basque. Et ensuite, une deuxième partie sur les mascarades. Alors, les mascarades de Soule, mais aussi les mascarades en Europe. Et parce qu'on retrouve ce genre de carnaval dans beaucoup de régions, et dans beaucoup de régions où des tziganes se sont sédentarisés. Voilà. Alors ici, la table, le site, c'est Laurent Paco qui fait partie de l'association qui l'a mis en place. Il est terminé au niveau texte et tout ça. On doit encore y ajouter quelques films. Il n'est pas encore en ligne, il n'est que sur les ordinateurs ici de l'exposition. Mais une fois qu'il sera complet avec tous les films et tout ça, on le mettra aussi en ligne sur Internet. Et la table a été préparée par Ustaro, Gonzalo Echevarria et son fils, qu'on voit peut-être dans les photos d'ailleurs, je ne sais pas. Pas Gonzalo, mais le fils, qui avait aussi participé à la mascarade.
Pétier. Biguerena.
Et donc, ils ont essayé aussi de faire une ambiance un peu de chaos avec des éléments, des danseurs ou des costumes. Voilà, alors là, je vais vous proposer de vous asseoir et puis je vais vous faire mon topo. Ordine Prejnaroy, Gati Adusuran, le gatu, qu'on appelle le gatu, qu'on retrouve aussi dans d'autres mascarades. C'est très étonnant cet instrument parce qu'on nous dit qu'il sert à attraper les saucisses. Les saucisses et les boudins au plafond. Et alors ce qui est très étonnant, c'est que cet instrument effectivement est très pratique pour décrocher des choses qui sont en hauteur, mais on ne le trouve dans aucun musée des traditions populaires, tout ça. C'est pas un instrument d'agriculteur. Hein? C'est dans les maisons, on ne l'utilisait pas, alors qu'il peut être pratique. Mais par contre, on le retrouve dans les mascarades et toujours quand il y a des bohémiens. Alors, je l'ai vu en photo, hein, sur une roulotte dans un film de Charlie Chaplin ou je sais pas quoi, accroché à une roulotte. Je suis en train de chercher pourquoi il est accroché à cette roulotte. Donc j'ai essayé de voir avec les ceux qui réparent des caravanes et tout ça, si déjà ils ont trouvé cet instrument-là. Il n'est nulle part hormis dans les carnavals. Et ça m'étonne beaucoup parce que c'est quelque chose qui sert. C'est sûr que ça sert à quelque chose. Est-ce que ça sert qu'à piquer les boudins et les saucisses ? Je ne sais pas, je me dis que c'est pas possible que ce ne soit... Enfin, que cet instrument aussi élaboré qu'on retrouve dans tous ces carnavals, hein, on le retrouve très souvent, ne serve qu'à s'amuser. Hein. Pour moi, il a aussi eu, une autre utilité, si vous avez des idées. Hein. Je suis preneuse. Ensuite, ici, c'est la tchéra, donc le tchéré, ouais, qui ouvre la route. Ça aussi, ça se trouve dans beaucoup de mascarades, un personnage devant qui ouvre la route.
Jean Doumain.
Ici, Ashkin, voilà, après, il y a le fouet du caoutchouc là-bas. Voilà. Donc, un petit peu comme dans le livre là, que, qui est sorti en 2009 et qui va être réédité d'ailleurs par Gatoussin parce qu'il était épuisé et qui va sortir à la fin du mois, en principe la réédition, un peu complétée par un autre article. Et puis, comme dans le site d'ailleurs et dans tout, voilà, dans tous les articles et tout ça, je vais vous faire une petite présentation en deux parties. Je vais d'abord vous présenter les bohémiens. Et ensuite, on passera dans la représentation des tziganes, des bohémiens dans les mascarades. Alors, les bohémiens, c'est le même peuple que les gitans, que les gypsies, que les manouches, que les romanichels, que les sintis. Tous ces noms-là, ils font partie du peuple tzigane. Du peuple tzigane ou du peuple rom. Hein, donc, il y a une grande confusion dans tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de noms qui sont donnés à cette population. Il y a des noms qu'eux-mêmes se donnent et des noms que les gadjés, comme ils nous appellent, leur ont donnés. Et suivant où ils se sont installés, suivant les époques, eh bien, eux ont pris des noms, mais les gens aussi leur en ont donné. Et ici, ils sont arrivés donc au XVe siècle en Pays Basque et ici, on les a surtout appelés bohémiens. Alors, il y a aussi des gitans au Pays Basque Irritoak, qu'on appelle au Pays Basque Sud, mais qui ne sont pas du même groupe, mais qui font aussi partie du peuple tzigane. Mais en principe, Irritoak, les gitans, c'est le groupe qui s'est sédentarisé surtout en Andalousie, et qui après est remonté vers le Pays Basque. Alors que les bohémiens seraient plutôt passés par en haut et seraient descendus après, ils seraient passés, c'est le roi de Bohême qui leur aurait donné des laissés-passer, en disant qu'ils étaient très bien tenus dans son pays, qu'il fallait bien les accueillir ailleurs aussi. Et donc, ils avaient ces laissés-passer du roi de Bohême, d'où le nom de bohémien qu'on leur a donné. Donc, au départ, c'est un grand groupe de personnes qui est parti de l'Inde, plutôt de la région du nord de l'Inde, vers le Xe siècle. Les chercheurs sont encore, alors moi là-dessus, je lis des livres et puis je prends leurs hypothèses, hein, je ne suis pas allée chercher là-dedans. Mais les chercheurs ne sont pas tous d'accord par rapport à cette grosse migration. Certains disent que ça peut être pour des mauvaises conditions climatiques. D'autres disent plutôt, et c'est plutôt vers là que ça va maintenant, qu'ils ont été enrôlés dans des armées. Et qu'ils ont suivi des armées. Et voilà, une légende, le premier écrit sur vraiment ce départ de l'Inde, c'est une légende. Donc les légendes, c'est pas terrible, hein, on y croit, on n'y croit pas. C'est une légende, le roi de Perse, c'est-à-dire l'actuel Iran, qui trouvait que tous ces sujets étaient beaucoup trop tristes et tout ça, et il fallait les égayer. Donc il a demandé en Inde, à notre roi, s'il pouvait lui envoyer des musiciens. Et soi-disant que tous ces musiciens qui seraient arrivés en Iran étaient des tziganes. Alors le roi de Perse, pour que les musiciens aillent égayer tous ces sujets, leur a donné à ces musiciens, en échange de leur, du fait qu'ils fassent la musique, un bœuf, un âne et du blé. Et il leur a dit, vous faites la musique et tout ça, et moi je reviens vous voir dans un an. Un an après, il est revenu les voir, il a trouvé, certes, des musiciens, mais qui étaient pauvres, loqueteux, voilà. Et en fait, ils avaient mangé le bœuf, ils n'avaient pas planté le blé, et il ne restait plus que les ânes. Et soi-disant que le roi de Perse leur aurait dit, eh bien maintenant, avec vos ânes, allez parcourir le monde, moi je ne peux plus rien pour vous. D'où ces arrivées de bohémiens ensuite en Europe. Par contre, il y a aussi des écrits autres, surtout près de la Grèce, dans les îles et tout ça, dans les îles autour de la Grèce, en Crète, au Péloponnèse, en Morée, à partir de 1322, ils sont arrivés par là, et c'est début 15e qu'ils ont commencé à être repérés plus par ici, en Europe de l'Ouest. Ils se sont déplacés dans partout. Certains se sont toujours déplacés et on les voit encore aujourd'hui. Il y en a qui continuent à nomadiser, mais beaucoup se sont sédentarisés. Alors, ils se sont sédentarisés très souvent dans des régions frontières, parce que dès que ces groupes arrivaient, alors ça pouvait être des groupes de... C'était des compagnies, ils appelaient, de, ça pouvait aller de 30 à 150 personnes, hein, ils se déplaçaient comme ça, et en famille. Et ils ont été très vite, d'abord admirés, parce qu'ils se présentaient comme des pèlerins qui devaient aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils se, voilà. Et puis ils étaient quand même un peu différents, hein, dans leur costume, dans leur manière d'être. Et donc ils ont été admirés au départ, donc bien reçus pendant très peu de temps, une cinquantaine d'années. Et après, au bout d'un moment, ils ont très vite gêné les populations qui restaient là, qui étaient sédentaires. Et il y a eu des textes pour les virer du pays où ils étaient. Donc ils se sont installés dans des régions frontières, parce que quand ça bardait un petit peu trop dans un pays, hop, ils passaient dans l'autre, et vice-versa. Du coup, le Pays Basque, entre deux aussi, ça a été une région pour eux où ils ont pu s'installer. Et il y a eu des rafles du côté espagnol, ils sont passés en France, et puis après, hop, quand ça a bardé trop par ici, ils repassaient de leur côté. Et c'est là que les communautés se sont formées, et quand ils sont, par exemple, arrivés au Pays Basque, beaucoup se sont arrêtés de nomadiser, hein, de se promener, et se sont installés là. Il y en a beaucoup qui se sont installés en Alsace, et après sur l'Allemagne, là-bas. Donc là-bas, ce sont des manouches, surtout. Mais ce qu'il y a, c'est que partout, toutes les communautés ont les mêmes métiers. C'est-à-dire qu'on retrouve chez les bohémiens du Pays Basque les mêmes métiers que chez les manouches, les mêmes métiers que chez les gitans. Et ils ont la même culture, la même façon de vivre, d'avoir des liens de famille, de régler les problèmes de la communauté. Ça reste encore dans les communautés d'aujourd'hui qui continuent à avoir un mode de vie tzigane, et on les retrouve dans les textes, surtout les bohémiens qui se sont arrêtés partout, même s'ils ne se sont pas intégrés, je m'intégrer entre guillemets. La même langue aussi, c'est le romani. Les bohémiens du Pays Basque parlaient, comme un spécialiste le dit, la Marcel Courtiade, qui est spécialiste du romani, il parlait l'euskado romani. Il appelle comme ça. Donc, ils avaient. On voit quand même qu'ils s'étaient vraiment sédentarisés et qu'ils n'ont pas beaucoup bougé d'ici, parce que cette langue-là, c'était principalement la structure du basque avec du vocabulaire romani. Alors que dans d'autres régions, par exemple les manouches, vont avoir gardé le romani avec des mots allemands ou alsaciens dedans. Tandis qu'ici, ils ont pris la langue basque, mais ils ont laissé de leur vocabulaire dedans. Et vocabulaire qui a été collecté au 19e siècle par des chercheurs et tout ça, et où on retrouve des mots qu'emploient aujourd'hui les Tziganes de Roumanie, et voilà, vraiment dans tout le monde entier, il y a plein de mots qui sont pareils, qui sont restés pareils, même s'ils sont installés depuis 5 siècles au même endroit. Hein, mais il y a des mots qui sont restés, et dans la région de Saint-Jean-Pied-de-Port, il y a même des mots tziganes qui sont dans la langue basque. C'est-à-dire qu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, pour dire fou, ils disent dilo.
Hein,
Dilo.
Ils ont que ce mot pour dire bizarre, bichia.
Oui, et eux n'ont que dilo.
Ils n'ont que ce mot que dilo.
Voilà, et je ne sais pas si vous connaissez le mot gajo, le film gajo dilo, oui. Et c'est un mot romani. Et la dernière fois, Antoine Lucu disait aussi par rapport à pour aller pêcher, ou je ne sais pas quoi. Enfin, il y a un mot, le poisson aussi, en langue basque, garassi, c'est le mot romani, du romani. Voilà. Ensuite, dans tous les endroits où ils se sont sédentarisés, donc ces tziganes, hein, bohémiens, gitans, gypsies, manouches, romanichels, sinti, ils ont été artistes, ils ont été maquignons, tondeurs. Alors, tondeur de mulets en Pays Basque, c'est impressionnant. Je ne sais pas le nombre de mulets qu'il y avait en Pays Basque, mais c'est impressionnant le nombre de tondeurs de mulets. Vanniers, montreurs d'ours, chaudronniers et étameurs. Voilà, ça, c'est les métiers qu'on retrouve dans toutes les communautés qui se sont sédentarisées partout ou qui continuent à se promener, parce qu'il y a des vanniers qui continuent
à être nomades. Il y a des chaudronniers qui continuent à être nomades, hein, des esclaves. Voilà. Alors, aux Pays-Bas, qui sont arrivés, enfin, on a les premières traces au XVe siècle, à Pampelune en 1435, Bayonne en 1483. Il y a aussi des traces d'emploi comme artistes au XVIe siècle en Pays Basque Sud. Donc, ils étaient embauchés soit pour danser, soit pour faire de la musique. Ensuite, ils ont été dans des armées, les bataillons de chasseurs basques. Ils ont été pêcheurs sur la côte aussi, sur la côte basque. Quand on parle des pêcheurs basques de la côte basque, il y avait beaucoup de bohémiens parmi eux. Et les cache-carottes font aussi partie de la communauté de Ciganes. C'est assez étonnant. Enfin, il y a eu des recherches avec des hypothèses disant qu'ils étaient mélange de Ciganes et Cagots. C'est pas si net que ça quand on regarde après les documents. Et par contre, quand on va à Saint-Jean-de-Luz et qu'on se promène un petit peu dans les rues pour voir comment ils présentent la ville, ils parlent des cache-carottes en disant que ce sont des descendants des Cagots et ils ne disent pas que ce sont des descendants de Tziganes. En règle générale, ça ne fait pas bien pour un pays d'avoir des Tziganes chez lui. Voilà, ça c'est ici, mais ailleurs aussi. Des mesures d'expulsion, il y en a eu en Pays Basque comme ailleurs. Les États de Navarre, tiens, ça je vais vous en lire un petit bout. En 1538, à Saint-Palais, ça tombe bien. Je vais vous lire un petit bout de ces avis d'expulsion. Alors, suivant les pays, ils ont eu les oreilles coupées, ils ont été pendus, ils ont été... Bon, ça dépend, hein. Ou alors on essayait de les envoyer plus loin. En 1538, à Saint-Palais, l'Assemblée des États de Navarre ordonne un avis d'expulsion contre les bohémiens ou les égyptiens. Hein, on les a aussi appelés égyptiens, d'où gypsy, eryptanos, ritanos. Hein. Mendiants valides et autres vagabonds. Ensuite, à Tudela, à 1549, on ordonne aussi la réexpulsion. Bayonne, 1574, les bohémiens sont interdits de séjour. 1604, Juntas de Guipuscoa, un avis d'expulsion spécifique, une prime de 200 reales sera offerte à qui capturera un gitan, une prime de 50 reales pour une gitane. De plus, est-il précisé, si la personne oppose une résistance, il est légal de la tuer. En 1608, les villages proches de la frontière font part de leur préoccupation à voir circuler de nombreux gitans et demandent l'autorisation d'utiliser des armes à feu pour les chasser, comme l'ont obtenu les habitants d'Oyarsun en Guipuscoa. En Navarre, de 1549 à 1802, 18 textes sont publiés, dont plusieurs interdisent aux habitants de recevoir, d'héberger les bohémiens et de faire commerce avec eux. Voilà, et ça aussi c'est important parce que les bohémiens du Pays Basque ont appris le basque, ça veut dire qu'ils côtoyaient les basques, obligatoirement, parce qu'ils ne pouvaient pas l'apprendre rien qu'entre eux. Et très souvent, il y a des textes qui interdisent aux habitants de les loger. Or, quand on interdit quelque chose, c'est souvent que ça se fait. Hein? Du coup, ils étaient logés chez les habitants, dans des bordes. Ils étaient aussi logés chez des petits seigneurs, hein? Et autour des châteaux et tout ça. Souvent, il y avait une troupe de bohémiens. Alors, soit ils servaient à défendre la propriété, mais ils connaissaient aussi très bien les chevaux. Ils pouvaient faire plein de travaux dans la propriété. Donc, ils étaient protégés par un seigneur local. Mais les habitants les ont aussi beaucoup logés. Et il y a même des textes anciens aussi qui interdisent aux Basques de se marier avec les bohémiens. Ça veut dire que ça se faisait aussi. Enfin, à partir du moment où c'est interdit, autrement, ils n'auraient pas pensé à faire cette loi-là si les gens ne l'avaient pas fait. Ensuite, en Soule, en 1721, il est interdit aux habitants de loger des bohèmes, soit mâles, soit femelles, dans aucune de leurs maisons, granges, bordes ou terres, à peine de 50 livres. Les habitants de chaque lieu s'assembleront au son de la cloche pour courir sur les bohèmes et les chasser jusqu'à ce qu'ils soient hors du décimaire. Et on leur reproche à ces bohémiens de s'attrouper tous les jours et de causer de grands dommages par leur pillage continuel. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de textes qu'on retrouve comme ça, État de Navarre, État de Soule, qui disent qu'il faut chasser ces bohémiens. Alors, ils étaient effectivement chassés d'un village. Ils allaient s'installer dans le village d'à côté et puis ils restaient là. Aujourd'hui encore, dans les... chez les tziganes, quand une troupe est nomade, et si elle a c'est souvent qu'elle a un marché quelque part, qu'elle peut vendre ou ses paniers, ou qu'elle peut faire de la chaudronnerie, ou qu'elle peut faire quelque chose, et ils ont un périmètre qu'ils respectent les uns les autres. C'est-à-dire que ne va pas arriver une autre troupe de nomades pour entrer dans leur périmètre et pour aller faire le commerce, le même commerce. Et apparemment, les bohémiens du Pays Basque, quand ils se sont installés, ils ont formé comme ça une communauté des deux côtés de la frontière, et ils ont vécu en communauté, mais en se déplaçant dans ce périmètre. Jusqu'à une époque assez récente, à partir du début 20e, on en retrouve pas mal dans les Landes. Ils auraient agrandi le périmètre. Alors, est-ce que c'est parce que ici, ils n'étaient plus acceptés? Je ne sais pas, mais beaucoup après ont changé et ont continué à vivre leur vie de tzigane. Alors, quelque chose qui s'est passé, et c'est là un petit peu que ça avait déclenché toutes mes recherches, c'est la fameuse rafle de 1802. En 1802, les bohémiens du Pays Basque, des arrondissements de Bayonne et Mauléon, donc tout le Pays Basque français, ont été raflés. C'est le préfet Castillane qui avait demandé cette opération. Et 475 bohémiens, hommes, femmes, enfants, ont été arrêtés en une nuit. Ont été emprisonnés, ont été envoyés dans des dépôts, non, comment on appelle ? De mendicité, là.
Dépôts
de mendicité, c'est ça ? Oui. Et partout en France, ils ont été envoyés aussi sur des travaux dans les Alpes, dans les Landes, ça pour les hommes. Et ils ont été libérés les derniers 3 ans après. Alors certains sont morts en prison. Et les autres ont été libérés. Et là aussi, fait assez étonnant, enfin, pour dire qu'ils étaient vraiment ici depuis longtemps, et bien ils sont revenus. D'où ils avaient été raflés. Et ils sont revenus retrouver leur communauté, ceux qui n'avaient pas été raflés apparemment, ou retrouver les gens qui les avaient protégés. Et ils se sont réinstallés là. Il y a eu un autre recensement, un recensement, là, mais pas une rafle, de bohémiens en 1860 sur la Basse Navarre et la Soule. Et là, ont été recensées 256 personnes. Il y en avait à ce moment-là 9 en Soule, 74 dans le canton de Saint-Palais, 63 dans le canton d'Ioldi, 60 dans le canton de Saint-Jean-Pied-de-Port et 40 à Saint-Étienne, dans le canton de Saint-Étienne-de-Baïgorry. Là, les bohémiens ont juste été recensés, apparemment ils n'ont pas été embêtés. Sauf que tous ces bohémiens du Pays Basque continuaient à avoir un mode de vie tzigane. Ils n'étaient pas tous intégrés. Ils n'avaient pas tous pris, certains ont pris le mode de vie basque. Ils se sont installés comme petits agriculteurs. Ils ont réussi à avoir une petite propriété. Ils sont devenus paysans. Alors ceux-là, on n'a plus dit qu'ils étaient bohémiens. Ceux-là, ils étaient basques. C'est ceux qui ont continué à avoir leur mode de vie tzigane qui ont catégorisé comme bohémiens. Et d'ailleurs, on retrouve dans pas mal de textes qui continuaient à mendier. Alors la mendicité chez les tziganes, ce sont les femmes qui mendient. Les femmes et les enfants. Aujourd'hui encore. Et chez les bohémiens du Pays Basque, c'était pareil. Et quand on regarde les registres de la prison de Saint-Palais, par exemple, c'est incroyable le nombre de femmes et d'enfants qui étaient emprisonnés pour 3 jours, pour 5 jours, pour 15 jours, parce qu'on les avait attrapés en train de mendier dans les villages. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça aussi ? Oui, j'ai regardé quand même en Béarn pour voir s'il y avait la même chose qui s'était passée. En Béarn, dans les mendiants, on trouve des gens qui sont arrêtés, ce sont des hommes. Et on ne retrouve pas les bohémiens du Pays Basque qui allaient forcément mendier en Béarn. Ils allaient, oui, au marché de l'Oron, quelquefois ça ne se passait pas très bien, il y a quelques faits divers comme ça. Mais autrement, ils restaient sur le Pays Basque, ils se faisaient arrêter. Mais, comment dire, on connaît quelques tziganes aujourd'hui. Et pour nous, un passage en prison, c'est quelque chose de très grave, quoi, enfreindre la loi et tout ça. je crois que pour eux, ça fait partie de la vie aussi, quoi. On va mendier, on se fait arrêter, on passe un moment en prison. C'est comme ça, c'est la loi des gadgets, voilà, hein, c'est leur loi à eux. On ressort, on repart mendier. C'était leur mode de vie de toute façon, donc ils continuaient à vivre comme ça. Quelquefois, quand on lit plein de choses sur eux, on se dit mais c'est affreux tout ce qui leur arrive. Et puis après, quand on les rencontre et qu'ils racontent eux-mêmes ce qui leur arrive, mais ils nous font rire, quoi, quand ils nous le racontent. Parce qu'ils le prennent, ils ne le prennent pas comme nous on le prend. Il y a vraiment une différence de culture par rapport à tout ça, par rapport à enfreindre la loi, par rapport à plein de choses qui pour nous sont choquantes, parce que nous, on nous a bien appris qu'il ne fallait pas dépasser les bornes. Et pour eux, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, un autre recensement en 1902, un autre recensement des bohémiens. Et là, je n'ai bizarrement retrouvé que la liste dans les archives des bohémiens recensés à Saint-Palais. Donc, il y avait 22 personnes juste pour la commune de Saint-Palais. Et les autres communes, je ne sais pas, où elles n'ont pas répondu, où elles n'ont pas eu envie de répondre, où les papiers se sont perdus, je ne sais pas où c'est passé. En tout cas, je n'ai trouvé que le recensement de Saint-Palais. Alors, les noms de famille fréquents, vous devez les connaître, parce que en principe, on dit encore pour telle famille, c'est une famille de bohémiens, hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'Etcheverry. beaucoup, beaucoup d'Etcheverry. Alors, ça ne veut pas dire que tous les Etcheverry sont bohémiens, mais beaucoup d'Etcheverry sont bohémiens. Hein? Beaucoup d'Huart. Alors, Huart ou Duart, hein, Aguerre ou Daguerre, il y en a beaucoup aussi, Larguerre, voilà, il y a beaucoup de noms comme ça, La Place aussi, il y a beaucoup de noms qui reviennent, et qui reviennent depuis, qui reviennent dès le XVIIe siècle et jusqu'au XXe siècle dans les derniers recensements, quoi, hein, c'est vraiment, parce que certains ne sont pas d'accord avec moi quand je dis qu'il reste encore des bohémiens, qu'il reste encore au Pays Basque des descendants de bohémiens. Certains disent non, le bohémien c'est juste un mode de vie. Or non, on retrouve les mêmes noms de famille qui traversent les siècles.
Les Huart, on a trouvé un peu ici.
Oui, Huart, hein. Et le bohémien ce n'est pas qu'un mode de vie, c'est aussi, il est membre du peuple tzigane, même s'il ne le sait plus aujourd'hui. Parce que j'ai été voir un bohémien sur Garassi et il était en train de découvrir toute l'histoire des bohémiens et qui faisait partie du peuple tzigane. Lui, il avait sa mère d'Ariscoun, non, son père d'Ariscoun, sa mère était du côté de Saint-Jean-Pied-de-Port et lui se disait bohémien quand même, mais basque, mais ne savait pas que bohémien c'était aussi membre du peuple tzigane. Ils n'ont plus du tout cette conscience. Alors que d'autres aujourd'hui qui continuent à avoir un mode de vie tzigane et qui. D'autres ont cette conscience-là. Hein? Mais il y en a plein qui ne le savent pas et ils peuvent même se critiquer entre eux. Les manouches ne vont pas aimer les gitans, même les communautés tziganes de France ont du mal à accepter aujourd'hui tous ces Roms qui viennent de Roumanie et qui ont fait partie du même peuple qu'eux, mais avec qui ils ne retrouvent pas d'accroche. Voilà. Alors, intégration, moi je dis point d'interrogation par rapport aux bohémiens du Pays Basque. Au XIXe siècle encore, ils vivaient vraiment dans une communauté. J'ai étudié beaucoup de documents sur l'état civil. Ce n'est pas dans le livre-là, mais ce sera dans la réédition par rapport au XIXe siècle. Et on voit que vraiment, ils vivaient en communauté sur la basse Navarre essentiellement, la Soule et la Navarre. Et donc on voit des mariages très, très nombreux entre membres de la communauté. Donc ça va être un jeune bohémien né à Ossas qui va se marier avec une bohémienne d'Irissari dont la mère venait d'Ariscoun. Enfin voilà. On voit vraiment que c'est qu'ils vivent en communauté et que les mariages se font entre eux. Alors, il y en a qui se sont mariés avec des Basques. Mais c'est très difficile à trouver dans les actes, parce qu'une fois qu'ils se marient avec un Basque, eh bien, on ne dit plus qu'ils sont bohémiens. Et du coup, vu qu'il s'appelle Etcheverry, et que c'est un nom qui est aussi donné à des Basques, vu qu'il s'appelle Huart, alors Marie Etcheverry, il y en a des centaines de Marie Etcheverry. Mais Marie Etcheverry, elle peut être bohémienne ou pas. Et Pierre Huart, c'est pareil, il peut être bohémien ou pas. Donc une fois qu'il se marie avec un Basque de souche, on ne dit plus qu'ils sont bohémiens, donc c'est impossible de savoir si c'est la même personne ou pas. Surtout que tous les bohémiens ne se déclaraient pas à l'état civil. Ils ne déclaraient pas toujours leurs enfants. Et quand il est déclaré, ça c'est quelque chose que les tziganes, les roms d'aujourd'hui font encore, ils n'allaient pas forcément déclarer leurs enfants. Ça pouvait être quelqu'un d'autre de la communauté qui se présentait et qui disait c'est le nôtre. Mais peu importe, parce qu'ils font ça pour nous, pour les gadjos. D'aller déclarer son enfant à l'état civil, c'est pas du tout dans leur coutume à eux. Mais on leur disait qu'il fallait le faire. Donc ils allaient le faire. Et quelquefois, soit on leur donnait un nom, soit ils prenaient un nom de quelqu'un qu'ils connaissaient au Pays Basque. Ça arrivait aussi. Hein, donc, quelquefois, on voit que des... Alors, c'est pas sûr, mais ça, je me suis dit que ça devait être ça, parce que d'autres chercheurs ont fait dans d'autres régions en Alsace comme ça, et sont arrivés aux mêmes conclusions, ceux qui m'ont mis la puce à l'oreille. C'est-à-dire que, quelqu'un des bohémiennes de Saint-Palais, mettons, hein, qui vont aller, pendant l'été, ils vont aller travailler ailleurs, faire les vendanges du côté de Garassi. Ils vont avoir un enfant. On va leur dire qu'il faut aller le présenter à la mairie. Bon, ça, c'est dans les premiers qui ont été se présenter. Ils vont se présenter à la mairie. Comment vous vous appelez? Eh bien, ils vont prendre le nom de celui qui les logeait à Saint-Palais. Ça, c'est ce qui s'est passé au début. Hein? Donc, ils ont eu des noms basques, parce qu'eux n'avaient pas des noms bohémiens à proposer. Et ils ne s'appelaient pas forcément comme ça. Entre eux, après... D'ailleurs, sur certains actes, c'est assez rigolo, on dirait que soit ils ont oublié comment ils s'appelaient, comment ils avaient été déclarés, parce que il y a des ratures. Alors c'est, la place Pierre, ah non, c'est Echeverry Bernard, et c'est Rayé, qui est marié avec Huart Marie, et puis non, c'est, elle est Rayé aussi, et puis c'est un autre. On se dit que ça a dû être le bazar le jour où ils ont été déclarés leur enfant à la mairie. Mais voilà, c'est les gadjets qui leur demandent ça. Et eux, ça n'a pas d'importance.
Et comment ils font pour se marier?
Hein?
Comment ils font pour se marier maintenant, en tant
que... Pour se marier? Alors oui, justement, ils demandent après des actes de notoriété. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont pu se marier. Et c'est pour ça aussi que moi, je n'arrive pas forcément à retrouver les liens, c'est-à-dire que quand une personne se marie avec un acte de notoriété, c'est sur témoignage et tout ça de plusieurs qu'il est né en telle année, tel mois et dans tel village. Mais c'est de l'approximatif.
Hein? Et ça, c'est aux archives, c'est les archives tenues par les notaires ou c'est tenues par les livres?
Alors, les actes de notoriété, c'est... Je ne sais pas si on les trouve dans les archives notariales. J'en sais rien. J'ai jamais été chercher les actes de notoriété. Moi, là où j'ai cherché, c'est dans l'état civil. Et quand ils se mariaient, on disait suivant l'acte de notoriété ou suivant l'acte d'état civil. Et là, je pouvais... Voilà, donc tous les actes d'état civil des Pyrénées-Atlantiques sont en ligne et on peut aller les consulter sur Internet ou sur le site des archives départementales. Donc, intégration, je mets point d'interrogation parce qu'on nous dit que ici, en Pays Basque, eh bien, les bohémiens se sont bien intégrés. Je mets un point d'interrogation parce que déjà l'intégration, c'est quelque chose qui a fait... Ça me fait me poser des questions. Oui, ils se sont intégrés, ceux qui ont abandonné totalement leur culture tzigane et ceux pour qui on a oublié qu'ils étaient bohémiens. Voilà. Mais ceux qui continuent à avoir un mode de vie qui n'est pas tout à fait le nôtre, ce sont deux cultures qui ont du mal à cohabiter, mais partout. Hein, les sédentaires qui ont bien tout réglé et ces bohémiens-là qui ont beaucoup moins de règles par rapport aux nôtres. Ils en ont beaucoup entre eux aussi. Il y a beaucoup de règles dans leur communauté, mais ça ne va pas être les mêmes qui vont adopter avec nous. Nous, nos règles à nous, la loi et tout ça, ils peuvent l'enfreindre, c'est pas trop grave. Il y a des choses qui énervent beaucoup aussi. C'est-à-dire qu'ils vont gagner 3 sous. Nous, ici, on épargne. Hein, on va mettre à la banque, on les garde et tout. Eux, ils peuvent faire une énorme fête le soir même et tout. Il n'y a plus de sous le lendemain. Mais ils peuvent venir nous en redemander alors qu'on les avait vu faire la fête la veille. Alors ça, c'est énervant. Hein, parce que. Voilà, mais ça fait. Et ils savent qu'en venant nous demander, ils vont nous énerver parce qu'ils savent qu'on les a vu faire la fête la veille. Enfin voilà, c'est des choses. C'est des choses qui ont du mal à cohabiter. Alors soit on le prend tranquillement, soit ça nous énerve. Hein. Et quand ça énerve, eh bien, ça met des tensions. Ça met des tensions. Hein. Donc il y a encore des bohémiens. Et tous les tziganes qui ont pu s'intégrer, c'est qu'ils ont mis une grosse couverture sur leur passé et que surtout, ils ont montré qu'ils n'étaient plus bohémiens. On a pas les mêmes repères culturels. C'est vraiment deux cultures différentes. Et moi, je trouve que quand on reconnaît sa culture à l'autre qu'on peut vraiment le reconnaître comme personne et qu'on peut dépasser toutes ces questions de racisme. Tant qu'on veut qu'il soit comme nous, qu'il s'intègre à tout prix et qu'il soit comme nous, eh bien, c'est là qu'on se confronte à... Voilà, mais il suffit de le savoir et de l'accepter. Mais si on dit, mais quand même, ils sont au Pays Basque depuis le 15e, ils pourraient s'intégrer et vivre comme nous, eh bien, c'est là que rentre le racisme. Voilà, et on témoigne souvent aussi beaucoup de familles, par contre, où les enfants ont appris un métier et tout ça, mais ils ne sont pas restés dans... Alors, quelquefois, ils ne sont pas partis loin, mais ils sont venus de Saint-Palais à s'installer en Soule. Et en Soule, on ne savait pas que c'était une famille de bohémiens. Ils n'étaient pas repérés comme tels. Donc, ils ont pu s'intégrer plus facilement par leur métier, mais aussi parce qu'on ne savait plus pas qu'ils étaient bohémiens. Ceux qui ont envie de vivre ici tranquillement, il vaut mieux qu'on ne sache plus qu'ils sont bohémiens. Ça, c'est sûr. Et donc, certains sont partis sur Bayonne aussi, en ville. Ils ont changé d'endroit pour se débarrasser de cette réputation. Si la famille a tout fait pour que ça ne se sache plus du tout, on ne peut pas aller ouvertement demander à des gens « Qu'est-ce que vous en savez-vous de votre famille ? Et est-ce que vous savez que vous êtes bohémienne ? Est-ce que c'est assez délicat ?» Hein ? Voilà. Alors je me le suis permise une fois, et en allant à Saint-Jean-Pied-de-Port, à Espour, mais dans une maison de bohémiens. Parce que je ne sais pas s'il y en a ici du côté de Saint-Palais, nous on en a en Soule, il y en a beaucoup du côté d'Ispour aussi. Ce sont des maisons minuscules, des toutes petites maisons. C'est plus grand que la cabane, mais beaucoup plus petit que la maison. Hein. Elles sont adorables ces maisons. Et il y a des quartiers où il y en a. Et donc à Ispour, je suis allée là-bas, mais j'ai engagé la conversation avec la maison. J'ai dit, ah, vous êtes dans une maison de bohémiens. Et du coup, le type m'a répondu, oui, mais moi aussi, je suis bohémien. Mais j'aurais jamais été lui demander directement, vous êtes bohémien. Et c'est le fait qu'il soit dans cette maison qui m'a fait... Et alors, pourquoi ils ont des toutes petites maisons? Ça, c'est lui qui m'a expliqué. Ils ne sont pas propriétaires du terrain. C'est des maisons qui ont été construites début 20e. Mais c'est toujours un bail qu'ils ont avec un agriculteur qui a bien voulu leur louer ou leur prêter un bout de terrain, mais ils ne sont pas propriétaires. Donc la maison, elle est toute petite dessus, mais si jamais le bail se termine, ben, la maison, ils n'ont plus non plus. Voilà. Et ici, je ne sais pas, il y en a sur Saint-Palais, des petites maisons?
Il y en avait, il y en a
reçu
encore, mais il y en avait 5 ou 6
sur
lesquels
je n'ai pas. La plupart sont démolis.
Il y en avait 5 ou 6. Mm-hmm. Il y a encore les emplacements, il y a resté quelques murs.
Voilà, au quartier.
Il y en a une qui est encore à l'abri.
Oui.
Ça représente une sacrée cause de réunion. On se réunit, ça c'est quand même quelque chose.
Oui. oui, oui. Et quand on voit les dégâts.
Une personne.
Eh bien oui. Ça, ça fait des dégâts dans toutes les cultures, ça, faire, hein, dans la culture basque, quand elle se fait, et voilà. Et bien oui, et oui. Et du coup, ça fait les mêmes dégâts. Mais pour moi, ça fait, ce sont des dégâts culturels, ce ne sont pas des dégâts de, hein, d'une classe sociale. Ce sont vraiment des dégâts culturels que ça fait. Et alors nous, en Soule, donc, une fois que j'ai commencé mes recherches, je me suis rendu compte eh bien, qu'il y avait aussi des enfants bohémiens avec moi au collège. Mais nous avons eu l'arrivée des Portugais. Et les Portugais sont arrivés quand même en grand groupe, hein, en Soule. Et je crois que, du coup, eh bien, on s'est tous mis d'un côté, mais en prenant les bohémiens avec nous. Nous, on n'a pas su qu'ils étaient bohémiens, notre génération. Et par contre, les Portugais, ils ont eu leur dose. Hein, mais ça a changé de.
Ça
n'a
pas d'immigration.
Voilà. Voilà.
Hein, et. Certains
oui. Voilà. Et du coup, ça peut mettre les autres. Ça peut ressouder le groupe qui était scindé, ça peut le ressouder contre les nouveaux arrivants. Hein, et je l'explique comme ça, hein, parce que maintenant, voilà. Moi, on ne m'avait jamais parlé de bohémiens à la maison et tout ça, et alors qu'après, une fois que j'ai commencé mes recherches et tout ça, mais oui, mes parents, ils connaissaient plein de familles, mais jamais c'était quelque chose qu'on abordait, hein, en Soule très peu quand même. Hein. Mais c'est vrai que les Portugais sont arrivés, et je pense que ça y a fait, dans les années 70. Voilà, donc la deuxième partie, les tziganes dans les mascarades. Il se trouve que dans la mascarade souletine, donc nous avons les bohémiens qui sont représentés et les cautés. Les cautés qui sont des chaudronniers qu'on dit venus de Auvergne, je ne sais pas d'où on les fait venir. Certains, on le dit maintenant, je ne sais pas si c'est les chercheurs qui nous l'ont dit et que c'est pour ça qu'on le dit ou si c'est. Bon, bref. Or, ces cautés-là, si vous voyez des Hongrois chaudronniers qui sont arrivés au 19e siècle à Paris et si vous voyez des gravures et tout ça. Ce sont les mêmes. Ils sont habillés pareil, ils sont chaudronniers aussi. Donc, c'est les bohémiens et les cautés, pour moi, représentent des personnages de tziganes. Les bohémiens, c'est sûr. Les cautés, on ne le dit pas. Alors, les hypothèses des chercheurs aujourd'hui sur les mascarades, qu'elles soient d'ici ou qu'elles soient d'ailleurs, hein, mais d'abord pour. Sur les mascarades de Soule, c'est que, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, le cortège est divisé en deux groupes. Il y a les rouges et les noirs, on les appelle aussi les beaux et les laids, ou les locaux et les étrangers. Et ce serait, ces mascarades-là, ce serait un fond commun européen, hein, cette culture des mascarades, de rites ruraux, ce sont les agriculteurs quoi, hein, qui feraient ces rites et tout ça, et ce fond commun européen, ben voilà, c'est pour ça qu'on les retrouve presque pareil un peu partout. Dans pleine mascarade comme ça, le début du cortège est coloré et on les appelle les beaux, et la fin du cortège est un peu plus noire, un peu plus sale, un peu, voilà. Mais on est allé voir avec Michel il y a trois ans des mascarades en Moldavie roumaine. En Moldavie roumaine, on a retrouvé à peu près la mascarade souletine. On a retrouvé le personnage du Samaltsai, hein, le cheval du pont. On a retrouvé les Jauna et Tandeya. On a retrouvé, qu'est-ce qu'il y avait encore, les bohémiens, et on a retrouvé les cautés, le médecin. Voilà, c'était un cortège de mascarades comme la mascarade souletine. Ils font la même chose, des sortes de barricades le matin et l'après-midi, le spectacle sur la place. Mais dans ces mascarades roumaines, le montreur d'ours, qui est tzigane, fait partie du devant du cortège, c'est-à-dire des beaux. Or, il est tzigane. Et avant, dans les mascarades de Soule, il y avait un ours qui faisait partie de la première partie du cortège. Et certains disent qu'à côté, il y avait son montreur. Montreur d'ours, en principe, il y en a eu dans les Pyrénées, mais c'est un métier connu comme un métier tzigane. Donc, il y avait déjà un bohémien dans le temps, dans le cortège des beaux qui était au début. Ensuite, la cantinière. La cantinière est un personnage qui est récent aussi en Soule. Et avant, c'était une bohémienne. C'était une bohémienne qui était devant le cheval et qui lui, comme en Provence d'ailleurs, où on trouve aussi le cheval jupon, et c'était une bohémienne qui lui donnait comme ça à manger, qui le faisait avancer. Et donc, elle se retrouvait aussi dans la partie des beaux. Mais ça, maintenant, on n'en parle plus. Et les beaux devant, ce sont les locaux. Hein. On n'en parle vraiment plus. Toujours en Roumanie, les chaudronniers, donc, ils sont dans la deuxième partie, mais c'est eux qui ont Jana et Andeya. Jana et Andeya, ils sont avec les chaudronniers. Nos beaux mariés, là, notre beau couple de notables, il est dans les noirs, là-bas. Et il arrive même une chose, voilà, donc ils sont un peu trash quand même. Hein. Et Andeya accouche. Et il se trouve que dans les mascarades sous le Tinavan aussi, la femme du chaudronnier, il n'y a plus de femme maintenant dans les chaudronniers, mais la femme du chaudronnier a couché dans les mascarades de Soul aussi. Et maintenant, il n'y a plus de femme. Donc ça, c'est pour la mascarade de Roumanie, pour vous dire si cette frontière entre les beaux et les laids, elle peut bouger suivant les mascarades. Et dans la Veïne, c'est une région qui a derrière Naples, dont tout le cortège est beau. Hein, ils ont plus de lait. Ils ont un personnage avec une grande pince comme ça, avec un grand gâtu. Ils ont Jean-Andeya, ils ont plein de monde. Alors Jean-Andeya sont complètement ridiculisés là-bas parce qu'ils prennent, ce sont des hommes encore qui font, ils prennent le plus petit bonhomme de la commune pour faire Jana et le plus grand pour faire Andeya. Hein, donc ça fait un couple complètement loufoque quand on voit les nôtres toujours. Hein. Et dans la Veïno, c'est une tzigane qui est en tête du cortège. Ils ne savent pas pourquoi. Hein, ils ne se l'expliquent pas. Mais c'est une tzigane qui amène tout le cortège de la mascarade. Donc, il y a le rôle de notre beau tchéré au devant ici. C'est elle qui ouvre le cortège. Tout ça pour vous dire que hein, ce truc de beau et de lait, de locaux et d'étrangers, auxquels les sous-le-teint se raccrochent beaucoup hein, pour monter leur mascarade et tout ça, c'est vraiment très fort. Et je crois que là, on se plante complètement. Autrefois en Soule, donc la bohémienne, le Gatusain, qui est maintenant dans les danseurs tout sage, hein, il faisait l'andouille pendant toute la mascarade, il allait pincer tout le monde, comme ça se fait dans d'autres mascarades en Europe. Le Samalsain, il n'arrêtait pas de s'enfuir, c'était les Kechtou qui le poursuivaient avec les bohémiens, c'était la panique partout. Alors, de mon hypothèse, qui va peut-être vous sembler complètement farfelue, mais moi ce que je me dis, c'est que ces mascarades-là, ce ne sont pas les agriculteurs qui les ont inventées, mais que ce sont des fêtes tziganes. Et que tout le cortège est un cortège de tziganes qui arrivait dans le village pour donner une représentation. Alors, les tziganes, si on regarde dans tous les pays, ils n'auraient rien amené comme tradition. Hein, mais ça, c'est pas qu'au Pays Basque, hein, c'est partout. Ils n'ont rien amené, ils ont toujours volé. Comme ils ont volé la poule, ils ont volé la chanson, ils ont volé la danse, ils ont volé... Ils seraient partis d'Inde sans culture. Hein? Voilà. Et ils auraient traversé tous les pays comme ça. Pourtant, dès le 15e, 16e, on dit qu'ils étaient artistes partout. Au 16e, ils faisaient la musique au Pays Basque. Ils faisaient des danses. Mais, voilà, ce sont des copieurs nés, mais ils ne peuvent rien inventer. Or, pour moi, ce sont eux qui ont inventé autant les personnages des beaux que les personnages des laids.
Parce qu'ils étaient déguisés en beaux, en fait.
Voilà, ils se déguisaient avec des beaux costumes, ils pouvaient faire le personnage du cheval jupon, qui est un beau personnage, hein, mais ils pouvaient... Voilà. Et c'est un personnage qu'on trouve vraiment sur tout leur passage. Alors bon, ils sont passés dans beaucoup d'endroits aussi, hein, c'est difficile à prouver. Mais c'est un personnage qu'on trouve sur tout leur passage et qu'on retrouve dans les régions où ils se sont sédentarisés. Donc il y a un très beau cheval à Inde, au Rajasthan, il y a de beaux chevaux en Roumanie, il y a de beaux chevaux dans plein d'endroits comme ça. Bon, si vous voulez, vous pourrez regarder sur le site ou dans le livre, j'en parle aussi un petit peu. Voilà. Et donc, moi, je crois que l'origine commune de cette mascarade, ce sont les tziganes, mais c'est parce que c'est eux qui faisaient ces mascarades. Et alors, ce qui me fait dire ça, c'est que ben, les barricades, la violence des barricades qu'on nous raconte dans le temps, je ne sais pas si on recevait aussi violemment les voisins. Par contre, recevoir une troupe de bohémiens dans son village, je pense que là, ça pouvait aller. Mais ils étaient artistes et ils venaient critiquer la société. On avait quand même envie d'entendre ce qu'ils disaient. Hein, parce que leur fête, elle est belle quand même. Et les fêtes tziganes aujourd'hui, elles sont très belles aussi. On est toujours attirés par ces fêtes tziganes. Mais on y va parce que c'est nous qui les organisons. On ne va pas forcément participer à une fête tzigane qu'on organise. Mais quand Romanès nous invite dans son cirque, moi j'ai vu dans le cirque Romanès enfin, beaucoup de choses qui me font penser à un esprit, voilà, à cet esprit tzigane qui nous attire. Il nous invite à sa fête. On est rentré à combien sous ce chapiteau? On se disait qu'on rentrerait jamais. Ils nous faisaient toujours nous serrer. Le spectacle ne commençait jamais. Ils avaient pris trop d'invitations par Internet et tout ça. Alors, ils ne savaient pas combien de gens arriveraient. Et après, à la fin, ils ont fini par mettre des gens sur la scène. Ils arrivaient tout juste à passer avec les musiciens parce qu'ils avaient mis des gens sur la scène du cirque. Ensuite, la première qui est arrivée en trop, c'est une vieille dame qui est arrivée avec sa famille. Il la soutenait quand même pour arriver au cirque. Donc la famille a été se mettre dans les escaliers et la vieille dame, quand même, elle ne pouvait pas monter les escaliers. Ils ont mis une chaise sur la piste. C'était la première qui est arrivée sur la piste. Après, il y en a eu d'autres, donc elle passait un peu plus inaperçue. Seulement, il avait installé à l'endroit où ils avaient installé aussi la corde après, où ils allaient faire un numéro. Donc il a fallu déplacer la vieille dame. Alors pendant le spectacle, ils ont déplacé la vieille dame, ils l'ont mise au milieu de la piste. Voilà, c'est une adaptation, mais on ne sait pas si c'est fait exprès ou pas. Voilà, et c'est là que c'est très fort. Parce que peut-être que si on repart voir le cirque Romanès ailleurs, eh bien, une vieille dame va rentrer, ils vont faire exactement la même chose. Là, nous, on a eu l'impression que c'était improvisé. À la fin du spectacle, ils se sont tous engueulés aussi. On les a entendus. Hein, alors, apparemment, c'était lui qui ne voulait pas que sa femme chante cette chanson. Il voulait plus qu'elle chante. Elle avait encore envie de chanter. Elle fait ça, hurlait à un moment. Mais là, pareil, on était gênés, moitié gênés, parce qu'ils s'engueulaient. On rigolait un peu quand même aussi. Mais on ne sait pas s'ils ont fait exprès ou pas. Et ça, on ne le saura jamais. Mais il y a un sens du spectacle et de la mise en spectacle qui est quand même qui fait aussi partie de leur culture. Et pour moi, ce ne serait pas du tout étonnant qu'ils aient pu inventer ce genre de spectacle, de critique de la société et d'autodérision aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'autodérision chez eux. Ils savent dire ce qui va nous faire rire sur eux. Donc pour moi, dans ces cortèges, les beaux comme les laits sont des personnages inventés par les bohémiennes tziganes. D'ailleurs, en Catalogne, quelque chose d'assez étonnant, dans les années 30, c'est Violette Alfort qui a fait des recherches là-bas. Il y avait des mascarades qui ressemblaient beaucoup à nos mascarades à nous, qui maintenant ont un peu changé, qui sont devenus assez spectacles de danse et... Voilà, là-bas aussi, on leur a donné beaucoup d'explications en leur disant qu'ils étaient des locaux qui faisaient la fête et qu'il fallait qu'ils soient très beaux et bien se tenir. Or, dans ces tournées de quête, au départ, il y avait des vols de choux dans les jardins. Ils se promenaient dans le village, ils volaient les choux et tout ça. Ils arrivaient sur la place du village avec les mariés, un bouffon qui improvisait des vers, un vieux, une vieille, je vous ai parlé de la boye et la boyecha. C'était vraiment une mascarade comme une mascarade. Et cette mascarade-là en Catalogne, ça s'appelle le bal des gitanes. Alors, ils ont aussi une danse, qui est la danse du mât, qui s'appelle le bal des gitanes. Et quand je leur ai demandé pourquoi là-bas, aux Catalans, eh bien, ils font exactement comme les Roumains à qui j'ai demandé, mais les Tziganes, pourquoi dans vos mascarades? Ils font exactement comme les Basques, quand on leur demande les Tziganes, pourquoi dans la mascarade? Ils n'ont été que de passage, ce sont les étrangers, c'est pour ça qu'on en a peur, donc ils sont dans la partie des méchants, et c'est pour ça qu'on les représente. C'est pour exprimer nos peurs qu'on fait la mascarade, pour, voilà, et pour les dépasser. Et c'est pour ça qu'ils apparaissent, mais la mascarade, elle a toujours été de chez nous, elle est bien de chez nous, et c'est nous qui l'avons inventée, c'est sûr. Or, la belle s'appelle le bal des gitanes. Alors peut-être qu'à un moment les Catalans ont abandonné la tradition. Les Gitans l'ont reprise un petit moment. Donc on l'a appelé Balge des Gitanes. Mais maintenant ce sont les Catalans qui l'ont reprise. Donc ils ont gardé le nom. Puisque... Mais voilà, c'est ça l'explication. Et il ne peut pas y avoir d'autre explication que celle-là. Pour moi, donc, les Tziganes faisaient ça. C'est pour ça qu'on la retrouve, mais vraiment la même forme dans plein d'endroits. Il y a des endroits où les personnages, justement, d'étrangers ont disparu. Ils ont encore le cortège, mais ils disent plus que ce sont des bohémiens ou comme ça. Ils disent plus que ce sont des étrangers. Ce sont juste des gens qui ont plus de gueule, qui font plus de choses. Et il y a des mascarades où c'est devenu ça. Mais pour moi, donc, ils fêtaient aussi leur rite, ils fêtaient le printemps. Il montrait aussi bon, le cheval, c'est aussi un personnage très important hein, chez les Tziganes. Il montrait aussi les métiers qu'eux exerçaient, parce qu'un spécialiste là, des Tziganes à qui on a montré la mascarade, mais, qui était venu l'an dernier, là, Alain Régnier, quand je lui ai dit ben, voilà, les bohémiens et les cantés, enfin, les Tziganes, ce sont ceux qui sont dans la partie là au fond, il me fait ah, mais tous les autres métiers aussi. Tous les autres métiers aussi, ce sont même s'ils les ont pas fait forcément au Pays Basque comme ça, ailleurs ils les ont fait. C'est que des métiers de tziganes, ça. Lui, il les voyait aussi dans tout le cortège. Alors, les mascarades, j'aime beaucoup cette fête, mais c'est vrai que je regarde d'un œil différent maintenant les bohémiennes des mascarades, que j'essaie l'an dernier la troupe des bohémiennes. Qui ont joué la mascarade, mais elles ont décidé de venir me voir. Je leur ai raconté l'histoire des bohémiens, au moins qu'ils sachent ce qu'ils font. Voilà, au moins ça. Après, ils le font comme ils le sentent, mais au moins qu'ils sachent de qui ils se moquent, hein, ou de qui ils représentent. Hein. On est allé en Roumanie, là-bas, moi je me suis retrouvée beaucoup plus mal à l'aise, parce qu'ici je me suis retrouvée dans le public à côté de gens. Que je sais bohémien, je pense que le savent, je ne sais pas, je ne leur ai pas demandé. Mais ils rient quand ils voient la mascarade. Mais il y a plein de gens en Soule qui disent moi je ne vais jamais voir les mascarades parce que j'aime pas ça. Et dans cela, il y en a qui sont d'origine bohémienne, mais j'ose pas leur demander. Est-ce que c'est parce qu'il y a les bohémiens qui sont représentés comme ça? J'ose pas. J'attends qu'ils me le disent, peut-être qu'ils me le diront jamais. Mais j'ose pas. Et je voulais en venir à quoi? Oui, Roumanie, pardon. Ah oui, j'étais partie, ouais, c'est pour ça. Donc en Roumanie, ils représentent les personnages de bohémiens. C'est le même jeu, donc c'est des femmes, c'est dans le groupe des cautés, là, qui sont. Donc ce sont des tziganes. Les hommes sont habillés assez joliment, les chaudronniers. Les femmes aussi. Mais dès qu'elles soulèvent les jupes, alors ce sont des hommes qui jouent les rôles de femmes, ils ont n'importe quoi qui pendouille, du sang sur la culotte, enfin voilà. Elles se comportent, mais les femmes, très vulgairement, ils viennent se frotter comme ça à nous et tout. Or, dans le village, ils ont encore des tziganes, les communautés tziganes, et ils sont déguisés comme les femmes. On les voit la veille dans la rue, les femmes, elles sont habillées comme ça. Alors pas avec tout de ce comme ça, mais ils se déguisent vraiment comme leurs voisines et pour aller se comporter au milieu de la place comme ça. Alors le matin, il y en a qui sont venus aux barricades. On m'a alors je n'ai pas été voir les tziganes là-bas. Pourtant là-bas j'aurais pu parler avec eux, enfin avec un interprète, mais j'aurais pu là-bas leur demander ce qu'ils en pensaient et tout ça parce que sont vraiment tziganes, ils le savent et voilà. Je n'ai pas été en parler parce qu'on a été reçu bon, pendant c'était 8 jours, mais on a été reçu par des Roumains et ce sont les Roumains qui me montraient la mascarade là-bas et chaque fois que j'ai évoqué mon hypothèse et tout ça pour eux c'était non, surtout pas hein, ce que c'est que ces tziganes nous aient amené quelque chose, non ça c'est partout pareil et du coup, ben voilà, je les ai regardés de loin. Il y en a qui sont venus à un moment voir les barricades le matin. Ils sont repartis. Après, apparemment, dans le public de l'après-midi, on n'a pas vu... Enfin, d'hommes, on les reconnaît moins facilement, les hommes dans leurs habillements. Mais de femmes tziganes, il n'y avait pas. Les seules femmes tziganes, c'était celles qui étaient représentées, hyper vulgaires, hyper... voilà. Donc la fête était très belle, hein, parce que c'est... Voilà, il y a des bruits, il y a des chants, on sent une communauté, là, on sent quelque chose de très fort. N'empêche qu'il y a un petit bémol, à mon avis. Le racisme n'est pas loin là-dessous.
Mais les cafés, Cabana, Pichon, ils ont un sacré moment de liberté, de liberté d'expression, de mettre en exergue des choses qui se passent dans la société, surtout qu'il ne faut pas trop montrer que les gens ne sachent pas trop. Là, il y a quand même un moment de liberté énorme.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et alors, c'est ça qu'on me dit aussi. Mais pourquoi tu le vois comme ça alors qu'on leur donne finalement un beau rôle? Certes, c'est un beau rôle, hein, qu'on leur donne au canté et tout ça. N'empêche qu'ils se comportent comme des sauvages quand même. Cabana, il tape ses ouvriers sans arrêt. Ils sont incapables de travailler. Le chaudron, il est tout troué. Quand on leur lance l'argent, tout le monde tombe dessus. Enfin, hein, ils sont... mais c'est vrai qu'ils ont ce... Ils peuvent parler.
Ils expriment aussi.
Ils expriment.
Tout ce dont est capable une personne humaine.
Voilà, voilà.
Aussi bien dans des choses des plus vilaines que des choses bêtes.
Oui, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est quand même la manière dont sont décrits les tziganes très souvent. Et même ce fait de prendre la parole et de venir librement exposer comme ça une parole au milieu de gens, c'est aussi quelque chose qui est tzigane. Donc certes, maintenant, ce sont les Basques qui les représentent comme ça. Mais c'est aussi... Et dans l'autre danse là, de Catalogne qui s'appelle le bal des Gitanes, qui est la danse du mât, et qui pour moi a été aussi amenée par les Gitanes, hein, on la retrouve dans toutes les régions où il y a ce carnaval, ce cheval jupon. C'est cette danse avec tous les rubans. Hein. Mmh. Donc là aussi, pareil, partout où on va, elle est basque, elle est indienne, elle est... Voilà. Et en Catalogne, elle s'appelle aussi Bal de Gitanes. Et au milieu de la danse, il y a un personnage qui vient faire un discours. Au milieu de la danse. Et donc, c'est bien pris comme un gitan qui vient faire un discours aussi. Alors, le livre, il va être réédité. Le 24 mars, à Gotem, on va faire une pastorale qui va retracer l'épopée des tziganes en Pays Basque. Et puis ça va se finir en Europe, et c'est Michel qui a écrit cette pastorale-là. On est en train de la préparer. C'est une vraie pastorale, mais c'est pas une pastorale de village, il n'y a que 14 acteurs. C'est format réduit. Voilà, et le site internet, alors là vous pouvez avoir accès à plein de choses si vous avez envie pour aller voir plus calmement que ce que je vous ai raconté. Et autrement, le site internet sera en ligne. Dans un petit mois, je pense, il manque quand même quelques films et tout ça dessus. Des films, notamment des extraits de films de La Mascarade sous le tine et le film qu'on avait tourné en Roumanie et qui va être aussi là. Et vous pouvez voir les mascarades roumaines aussi là-dessus.